fait pour les prises de parole en... Il serait bien que... Oui. D'accord. Et si je peux dire, est-ce qu'on peut concevoir que ce n'est pas des questions et des réponses, mais que c'est un débat collectif?
Bon, j'applaudis à la fin de cet exposé parce que je trouve qu'il ouvre beaucoup d'espoir, de réflexion et de choses positives. Par contre, dans les préalables, il y a eu beaucoup trop, pour moi, de définitions courtes, limitées de ce qu'est le réactionnaire. Enfin, j'avais l'impression d'écouter un truc un peu ringard. Et pardonnez-moi, mais je vais à la queue leu-leu faire quelques remarques. Par exemple, il n'a pas été fait de distinguo entre racisme, c'est contre une race, et la réaction contre une culture. Alors, nous avons actuellement, on ne va pas chercher ailleurs, hein, des cultures dans notre pays qui posent des problèmes. Le nier, à mon avis, c'est de l'hypocrisie, c'est vraiment un déni de la réalité. Il y a des cultures du djihad, par exemple, qui se répandent dans nos banlieues, dans d'autres pays. On ne peut pas les nier, de même qu'il y a la culture du nazisme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je n'énumère pas tous les autres aspects. Moi, j'ai été prof dans les banlieues nord et j'ai quitté l'enseignement du reste. C'était invivable. Et je n'accuse pas les responsables. Ils ont toutes les excuses du monde. L'intégration s'est mal faite, c'est certain. Mais nous sommes devant des faits qu'il ne faut pas nier et on ne peut pas non plus contraindre les gens à souffrir inutilement. Alors, comprendre les mécanismes, pourquoi on devient comme ça, c'est très important. D'autre part, les psychologues ont bien expliqué qu'un immigré qui se trouve dans une culture de l'envahisseur aura forcément une réaction. Les immigrés qui viennent du Vietnam ou d'autres, qui ne sont pas chez l'envahisseur, je l'ai vu chez mes élèves, qui habitaient les mêmes HLM, les mêmes standings de vie, etc., avaient un autre comportement parce qu'ils n'étaient pas chez l'envahisseur et peut-être ça ne nourrissait pas certains développements de leur comportement. Ensuite, à propos encore de l'islam, tant pis, vous me foutrez dehors si vous voulez. On ne peut pas nier que dans le Coran, comme cette pauvre héroïque Talisma Nasrin en fait l'étude verset par verset, il y a des choses extrêmement antiféministes. Et moi, j'en ai souffert aussi dans ces conséquences banales dans les banlieues. Être cloué contre un mur en disant « Madame, je voudrais tirer un coup avec vous, combien c'est ?» Bon, ben ça, c'est une culture sexiste. Pourquoi la nier? Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont comme ça. Mon poète préféré, c'est Rumi, hein, de sémite, et je le préfère à tous les poètes écrivains français, ça n'empêche pas. Pour Brigitte Bardot, il n'est pas dit que Christophe Marie, qui la remplacera, il sera peut-être politiquement correct, ok, mais rien ne dit qu'il fera cette œuvre gigantesque qu'elle a faite ou qu'il la continuera au même degré. Moi, je donne un grand coup de chapeau à Brigitte Bardot, elle a obéi à son instinct, à sa nature, et je lui pardonne, comme d'ailleurs à tous les gens qui font du mal sur cette planète, d'une façon ou d'une autre, nous aussi, on l'a vu pendant les estivales, eh bien, il faut comprendre les mécanismes et pas accabler. Voilà. Pour le christianisme, c'est vrai que la symbolique est catastrophique, l'histoire du péché, la crucifixion du Christ qui va revenir. Ceci dit, il y a des groupes d'études chrétiens qui ne m'intéressent pas spécialement, mais qui font le point là-dessus, qui montrent que pour beaucoup c'était une symbolique, que le Christ ressuscité, ce n'est pas du tout ça, que le fait qu'il revienne, ça veut dire une conscience en nous, qui se développe, de l'amour, mais pas du tout au niveau chair ressuscité. Il faut quand même être un peu au courant de ce qui se passe. Et puis, quelque chose encore, jusqu'à maintenant, on n'a pas mis dehors. Je ne vois pas. Il y a des apports énormes en ce moment, en psychanalyse, en psychologie, en métaphysique également. On en parlera pour l'évolution. Qui sont là, mais renseignez-vous, c'est passionnant. Ça donne de l'espoir et voilà. Pour le moment, c'est tout.
Mais c'est une réponse ou c'est...
Vas-y, interviens si tu penses que
c'est... Et c'est simplement, par rapport à ce que tu dis, il y a des problèmes dans toutes les cultures. À l'heure actuelle, il y a une mise en exergue des problèmes qu'il y a liés à la culture musulmane, mais qui sont pas, qui n'est pas une mise en exergue, qui est innocente, qui est mise en exergue, qui vise à créer un sentiment dans la population française d'hostilité vis-à-vis de certaines populations, de créer une sorte de sentiment comme ça d'identité chrétienne, où on polarise sur une population cible. Ça permet aussi soit de se dédouaner, c'est un truc que j'ai pas développé, mais dans le... C'est un truc qu'on utilise énormément. On va utiliser la question des droits des femmes pour focaliser une hostilité sur un groupe cible, mais aussi pour dédouaner la société française, qui est, ou par exemple la culture catholique, parce que la culture catholique, elle a joué un rôle, le Vatican a joué un rôle phare dans l'échec des négociations de Pékin pour les droits des femmes à l'échelle mondiale, en 1995 par exemple. C'est quelque chose que... Qu'on souligne pas, on va dire que c'est l'islam qui est l'ennemi des femmes. Mais le Vatican a joué un rôle phare, et aussi en poussant des institutions islamiques à le rejoindre, ce qui n'était pas leur idée initiale. Ça vaut le coup d'être. Et c'est la même chose pour l'instrumentalisation du halal, de l'opposition de l'hostilité aux abattages rituels, halal et kasher. Donc, ça permet de focaliser sur des groupes cibles et ça permet d'édouaner. Alors, ça permet donc de focaliser et du coup de créer une sorte de pseudo-unité nationale qui va être instrumentalisée à des buts politiques ou économiques ou que sais-je, une paix sociale, à mon avis, au profit d'un système politique ou économique. Mais en plus, ça permet aussi d'invisibiliser les modes de tuerie. Généralisé. Alors là, j'ai fait circuler justement comme illustration un tract sur sur la question des. C'était un communiqué de presse des éditions Tête Partie qui dénonçait un projet de campagne qui n'a pas eu lieu sous cette forme, finalement, pas entièrement, mais qui soulignait que les abattages sans étourdissement, les abattages à la chair sont une minorité des abattages sans étourdissement, c'est pas une raison pour ne pas les dénoncer, mais que. C'est quand même fou que quand on dénonce les abattages sans étourdissement, on dénonce que ces abattages-là, alors qu'ils sont, ils représentent le centième des abattages qui sont opérés au niveau de la France. Alors si c'est vrai, il y a peut-être 100 milliards de poissons qui sont tués chaque année dans les eaux territoriales françaises. Ils ne sont pratiquement pour aucun anesthésié ou étourdi. Ils agonisent lentement ou ils sont percés avec des barres de... des pointes, et des fois ils agonisent pendant des heures pour certains poissons. Dans les abattoirs français, il y a à peu près 10% des animaux qui ne sont pas étourdis. Par exemple, pour les lapins, c'est bien documenté, c'est le genre de 10%, mais c'est énorme aussi pour les poulets, etc. Donc c'est censé être un accident, mais de fait c'est une pratique de masse qui concerne des centaines de millions d'animaux. Voilà, tous les poussins mâles ou les caletons femelles, c'est à peu près 100 millions d'animaux. Eux, ils sont broyés vivants ou avant, ils étaient étouffés dans des sacs. Il y a encore d'autres cas, il y en a plein. Il y a les animaux qui sont tués à la ferme, qui sont souvent pas étourdis ou on ne sait pas bien comment. Il y a les animaux comme les cailles ou les pigeons qui sont tués dans des boîtes de décompression où on fait le vide. C'est des morts qui sont assez atroces, je pense. Et on n'en parle pas de ça. Et ça ne peut pas être innocent. Voilà, il y a l'instrumentalisation aussi. Il y a plusieurs types d'instrumentalisation comme ça. Alors, effectivement, il y a des problèmes dans plein de cultures, dans plein de religions. Par exemple, moi, je suis athée et anticlérical de façon générale, et même au-delà que ça, je pense que le sentiment, une bonne part de ce qu'on pourrait englober sous la forme de rapport religieux au monde est plutôt malsain, je pense, dans ses conséquences. Mais ça n'empêche pas qu'il y a à distinguer entre une critique globale et qui fait la part des choses et une focalisation qui est instrumentalisée politiquement.
Voilà. Je vais un petit peu modifier ce que j'avais pensé dire au départ. Bon, d'une part, je préférerais, alors après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, qu'on n'applaudisse pas après les interventions, à part les interventions des personnes qui ont parlé comme étant les personnes qui faisaient la présentation, parce que du coup, ça, je trouve que ça clive le débat. Après, si on veut faire ça, parce qu'on a vraiment envie de manifester sa satisfaction d'entendre certaines paroles, bon, on va plutôt retenir, quoi. Mais et l'applaudissement, je trouve ça, ça peut être étonnant. Voilà. Ensuite, moi, je vais pas m'attarder sur ce qu'a dit Yves, parce que moi, je trouve que, pour moi, je trouvais que ça faisait pas débat. Je trouvais ça limpide et super intéressant et super bien construit. Tout ce que tu as dit, Yves, et voilà, et je te remercie là-dessus, parce que justement, j'aurais aimé à réussir à mettre les mots dans le bon ordre pour pouvoir le dire aussi bien. Et qu'effectivement, faut se méfier de ce qui peut être caché dans des choix politiques à un moment donné, et même si c'est pas l'intention des personnes qui... On parle par exemple d'Avian Dalal qui... Si leur intention n'est pas nécessairement raciste, c'est-à-dire que n'est pas nécessairement de stigmatiser une population, moi je ne fais pas de procès d'intention aux personnes, le résultat il est là. Donc dans un contexte politique, on doit toujours faire attention aux conséquences de prise de position, surtout quand c'est des prises de position collectives. Moi c'est différent des positions individuelles à mon sens.
Il y a quand même un autre, quoi.
Parce que c'est ce point précis. Moi, je trouve ça important aussi de voir à qui on s'adresse. Dans le cas de Malad, oui, on s'adresse à une population de 60 millions d'habitants. Et c'est inévitable qu'on fasse ce type de rapprochement halal, musulman et donc racisme. Et moi, je trouvais que cette semaine, c'était pareil. Il faut faire attention aussi à qui on s'adresse dans le contexte. Voilà. Moi, je trouvais que c'était très pertinent, en fait.
Et ensuite, je ne voudrais pas qu'on passe à côté de tout ce qu'a dit David. Je suis intéressé aussi, moi aussi, il y a une bonne partie des conclusions et même du cadre général de pensée que je partage tout à fait. Mais à pas mal de moments, j'ai trouvé un certain manque de nuances dans ton exposé. Et qui sont... Non, à David. Donc justement, j'avais trouvé ton exposé très nuancé, Yves, par contre. Je pense que je vais prendre juste un exemple parce que je pourrais en prendre plein et ça sera trop long. Par exemple, si on prend l'exemple de ce que tu as dit par rapport aux manipulations génétiques, il ne me semble pas, pour y avoir participé, que l'ensemble du mouvement qui a lutté contre les OGM en plein champ ait des motivations réactionnaires au-delà de leur... positionnement politique, et que on peut tout à fait avoir participé à ce mouvement et avoir un regard tout à fait critique sur les OGM, et j'allais dire en général sur les nouvelles technologies, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, d'un point de vue progressiste et d'un point de vue conséquentialiste. Voilà, c'est tout.
J'y tiens parce que je suis toujours prêt à prendre la parole, donc je me lance. Je voudrais dire en préalable qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans les deux exposés. C'est important pour moi de le dire parce que je vais relever ce qui m'a posé problème aussi dans les deux exposés. Le premier, je suis moins optimiste qu'Yves quant à la fondation Brigitte Bardot et le fait qu'elle ne soit pas actionnaire, parce que une organisation dans laquelle une personne a le pouvoir total de mettre certaines choses dans un édito, je pense que ça compromet vraiment la possibilité que ce soit pas réactionnaire, parce qu'on sait quand même que beaucoup de choses se sont passées, ont pu se passer avec le silence des autres. Pour cette question-là, je pense que ça minimise un peu pour l'exposé de David. La culture du débat, moi je trouve ça génial, c'est un idéal, c'est dans l'absolu c'est vraiment une très bonne idée, mais concrètement, matériellement, les conditions du débat, elles sont pas automatiquement possibles, elles sont à créer, et même je pense qu'elles sont systématiquement un peu faussé dès le départ, parce qu'on est souvent dans des rapports de force qui sont déjà conditionnés avant le débat par la situation, la catégorie à laquelle on appartient, par les idées racistes et homophobes, et donc on ne peut pas... c'est pas si simple que ça, quoi. Ça nécessite qu'il y ait une volonté de débat des deux côtés, qu'il y ait une espèce de considération des arguments de l'autre. Ça nécessite qu'il y ait une volonté de développer des arguments et non pas des raccourcis. Et pour moi, il y a beaucoup de propos racistes qui ne sont pas des arguments, qui sont c'est comme ça, ça a toujours été. Donc voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est une belle idée, c'est un bel idéal, mais concrètement, hein, on l'a vu ici et moi je le vois partout. C'est bien plus compliqué. Voilà. J'aurais bien aimé le développer plus, et je me propose de le faire une fois, mais j'ai essayé de prendre ça.
Il y avait Cécile là-bas. Il y avait Cécile là-bas.
Alors.
Oui, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, rebondir sur ce qui a été dit concernant les musulmans. Les réponses apportées sur le plan rationnel m'ont paru tout à fait satisfaisantes. Moi, je voudrais rebondir sur un plan émotionnel. Ça fait plusieurs années que je me sens particulièrement affectée par les critiques qui sont faites à l'encontre de la communauté musulmane. Simplement par empathie, je pense. Donc voilà, ça m'affecte d'en entendre encore aujourd'hui. Je voulais dire aussi que voilà, j'ai pas regardé la tête des gens, j'ai pas regardé s'il y en avait qui étaient peut-être musulmans, mais il y en a peut-être parmi nous, et j'imagine que ça doit être en puissance 1000 par rapport à ce que je peux ressentir moi. Donc voilà, je voulais juste exprimer ça. Après, les deux interventions d'Yves et David m'ont beaucoup intéressée. Il y a deux points que je voudrais mettre en avant parce que j'aimerais bien qu'on discute de ces deux points-là. Pour la conférence de David, comment trouver l'équilibre entre comment arriver à ne pas culpabiliser tout sans se donner bonne conscience, comment trouver l'équilibre entre ces deux pôles. Et pour la conférence de David, je trouverais ça très intéressant qu'on réfléchisse à quelles sont les barrières qu'on se met intellectuellement et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme pensée qui irait beaucoup plus loin que. Je ne sais pas si c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui sortirait vraiment de nos schémas de pensée habituels pour le mouvement animaliste. Voilà.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les deux interventions et je voudrais revenir principalement sur celle de David où il y a deux points qui ont déjà été nuancés et je voudrais nuancer aussi sur ces points-là. Alors, à savoir la culture de l'argumentaire, elle a quand même ses limites, à mon avis, parce que, alors déjà, il y a des cas où une personne qui est tout simplement de bon sens et qui a une intelligence plus de l'ordre du psychologique, du social, de l'humain, des fois peut faire des choix beaucoup plus pertinents qu'une personne qui a une culture, qui a une intelligence très logique, qui est dans la culture de l'argumentaire, mais qui a des représentations complètement fausses. Et on est bien placé ici pour savoir que les représentations, c'est très difficile à détruire. Et par rapport au milieu du scientifique, l'argumentaire, il est aussi limité à notre connaissance. Et on sait bien que c'est les multinationales qui ont les moyens de financer des recherches, et ce n'est pas la société civile. Et donc parfois, sur des aspects scientifiques, nous, on n'a pas forcément l'argumentaire pour pouvoir faire un choix vraiment pertinent. Et je voulais aussi insister sur le fait que le progrès, il est très souvent utilisé, il est assimilé à la science, très souvent à la technologie, et il va souvent dans une idée de fuite en avant scientifique, technologique, qui est à mon avis un échappatoire qui nous empêche des fois de remettre nos idées, nos pratiques en question. Et souvent, on a beaucoup de solutions qui sont de l'ordre de l'humain, du social. Et comme on ne préfère pas y penser parce que c'est plus facile de se déresponsabiliser, ben on préfère se confier à la science et qui est censé nous trouver plein de solutions. Et je suis un peu méfiant de ça.
Dans plusieurs points, ce qui me concerne, le premier, ça a été, donc, je vais parler de la conférence de Yves. Quand tu t'as dit, donc moi je suis un égalitariste, je veux, enfin, tu m'as semblé un moment entendre le fait que tu voulais l'abolition finalement de tous les groupes en fait, hein, qu'il n'y ait plus de différence finalement entre voilà, les groupes. C'est comme ça que voilà, tout le monde se sente à égalité. Et ma première réaction, ça a été de dire, mais c'est impossible. Puisqu'on est, voilà, bah, on est blanc, on est noir, on est homosexuel, on l'est pas, etc. Et tout. Donc nous, on a une appartenance forcément à un groupe. Comment tu veux abolir ça? C'est pas possible. Il y aura toujours des différences. Et puis après, je me suis dit, ah mais je suis antispéciste en fait. Donc je suis antispéciste et donc je veux abolir la différence entre l'espèce humaine et toutes les autres espèces qui existent. Et donc, en fait, où ils ont des différences avec moi, qui sont mais encore bien plus grandes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il y a une incohérence en moi, en fait. Je veux lutter pour l'antispécisme et dire, en fait, bah, l'égalité de toutes les espèces. Et de l'autre côté, quand ça concerne uniquement mon espèce à moi, ça me paraît un combat hallucinant. Et je me suis dit, voilà, là, il y a un problème. Donc, si je suis prête à lutter pour l'antispécisme, eh bien, je dois être aussi d'accord avec toi et de dire que, bah oui, l'égalité peut être possible, en fait, et qu'en tout cas, même si ça ne va pas être un combat facile, eh bien, si je suis prête à lutter pour l'antispécisme, eh bien, je dois être prête aussi à imaginer qu'en tout cas, un jour, eh bien, on pourra essayer de penser l'égalité entre les humains. Puisque finalement, ce qui nous différencie est bien moindre que les différences entre toutes les espèces. C'était le premier point. Ensuite, donc merci pour cette illumination, je veux dire, de la journée. Donc l'autre point, et pourtant je pense être une progressiste, hein, mais je n'avais pas encore eu le déclic. Ensuite, un autre point par rapport à ça, c'est aussi le... Alors moi je trouve vraiment intéressante l'idée, donc du coup, égalitariste et progressiste, hein, parce que finalement j'ai eu deux discours aujourd'hui en face de moi, hein, qui prenait en fait l'égalitarisme et l'autre, donc le progressisme. Je vais y arriver. Alors ce qui m'intéressait dans la conf de David, c'est plusieurs choses. Alors je trouve encore moins qu'il y a trop de contenu en fait. Je pense que c'est pas étonnant qu'il y ait des personnes aussi qui puissent avoir du mal à comprendre ta pensée, David, parce qu'en fait, je pense que tu veux parler de trop de choses en même temps et que sûrement ça gagnerait en clarté si tu enlèverais certains sujets et que tu étais. Voilà. Parce que c'est vrai que ta façon de voir les choses est vraiment particulière et qu'il faut arriver à comprendre en fait ta façon de voir ton mécanisme pour finalement y adhérer. Mais le chemin n'est pas forcément parfois facile, parce qu'il peut y avoir des petites embûches sur le chemin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et donc sur le côté vegan, en fait, tu as mis plusieurs points sur lesquels voilà, la façon dont on peut aussi se voir en tant que vegan, un peu la suprématie vegan, la recherche de la pureté aussi, que je trouve en fait dangereuse en fait, dans le véganisme, on est toujours cette idée que finalement on va être supérieur, on va essayer de finalement un peu totalitaire. Peut être dangereuse. Donc là, je trouve que c'est un point vraiment important sur lequel on doit, nous, se questionner aussi, et sur le fait aussi que voilà, on doit éradiquer la race humaine, etc. Et tout ça, c'est des questionnements qu'on doit avoir, parce que finalement, ça nourrit aussi, après, éventuellement, derrière, des pensées négatives à l'encontre des autres humains. Dernier point, alors il m'a semblé entendre que tu avais dit que la corrida était un art. Il m'a semblé entendre ça parmi la longue conférence. Et pour moi, bah, la corrida, c'est pas un art, en fait. Mais alors, mais vraiment pas du tout. Donc je comptais le dire. Et je vois pas comment on peut trouver ça artistique, à part peut-être la tenue qui est joliment faite. Mais alors, à part ça, non, je vois rien d'autre.
Mais l'art n'est pas toujours beau.
Oui, non mais...
C'est pas ça. D'abord, Baptiste.
Bon matin.
Moi, c'est juste une partie d'éclaircissement sur une diapositive que David a projetée sur, alors je ne me souviens pas exactement de la phrase, mais c'était la compassion envers les animaux et les humains différents. Donc, humains différents, ça m'interroge.
Humains différents de soi, je veux dire.
Différents du groupe d'appartenance, c'est ça.
En fait, je voudrais réagir en fait, à la, David, à la notion de progrès, en fait, enfin, comment sortir de la situation présente en allant soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Parce qu'en fait, le temps, il se déroule dans un seul sens, on va forcément vers l'avant. Et du coup, après, c'est très idéologique de ce qu'on appelle les valeurs du passé ou les valeurs du futur. Donc, si par exemple on sortait de la société industrielle, ça ne serait pas un retour à avant l'industrie, ça serait un passage à la société d'après l'industrie. Et ce n'est pas parce qu'on fermerait les usines qu'on rétablirait la peine de mort. C'est le temps, c'est cool. Il y a des changements sociaux qui sont positifs, il y a des changements sociaux qui sont négatifs. Par exemple, quand on parle du Moyen-Âge, souvent en plus, dans plusieurs exposés, il y a été question du Moyen-Âge, comme d'un bloc. Enfin, le Moyen-Âge, ça s'est passé sur un très grand territoire. L'an 500 en Europe, ça n'est pas l'an 1000 en Afrique de l'Ouest. Et dans tout ce Moyen-Âge, il y a réellement eu des expériences intéressantes. Il y a aussi eu des horreurs, mais bon, elles sont parfaitement dissociables. Et donc, voilà, premier point. Je pense que dans une société rationnelle, donc une société rationnelle, pour moi, ça veut dire une société où le débat public est le moteur de la politique. Donc ce n'est pas des intérêts qui s'opposent les uns les autres, c'est tous ensemble qu'est-ce qu'on veut faire du monde. Donc ça signifie une société sans classe, pour moi, évidemment. Dans ce genre de société, quelqu'un arrive avec une innovation. Si on voit que l'innovation, elle est souhaitable, on la met en place. Si on voit que l'innovation, c'est une nuisance, eh ben, on ne la met pas en place. Et simplement, dans une société de domination, c'est pas le débat public qui décide de ce qu'on va mettre en place ou non, c'est d'autres forces. Et très souvent, les innovations, elles impliquent des changements sociaux qu'on se prend dans la gueule de façon très violente. Et s'opposer à ça, c'est pas être passéiste, c'est simplement constater que ces changements sociaux-là sont des nuisances. Voilà, enfin, je pense que comme il y a plusieurs personnes qui ont envie de parler, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y en aurait plein. Bon, ben, je vais passer la parole.
Il y avait trois
personnes. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a énormément de questions intéressantes, en fait, de questions, de remarques, de choses intéressantes. Enfin, il y a des questions qui m'ont été posées, Cécile, et puis... sur les histoires de débat, je pense, enfin je sais pas, j'ai pas la science infuse pour y répondre, quoi, c'est tout.
Et moi je voulais préciser un truc par rapport à cette histoire de disparition des groupes là dont j'avais parlé au détour d'une phrase. Que ce soit pas mal compris, c'est pas parce que je pense que n'importe quelle division serait porteuse de guerre ou d'inégalité ou tout ça, et qu'il faudrait arriver à une humanité une et indivisible et uniforme et tout ça, c'est parce que les groupes dont je parle, je pense, et je ne suis pas seul à faire, c'est, il y a une école de pensée qui est l'école politique qui pense ça et qui l'argumente très bien, que c'est des groupes qui se sont construits pour répondre qui ont été construits d'une façon inégalitaire d'emblée. Quand les, les explorateurs blancs du 15e siècle ont fait le tour du monde, quand ils rencontraient Marco Polo qui allait en Chine, quand il écrivait les populations qu'il rencontrait, et ben maintenant ça paraît surprenant, mais il décrivait les vêtements, les coutumes, tout ça. Alors la couleur de la peau, les cheveux, les yeux et tout ça, il ne pensait pas à les décrire. C'était pas un fait saillant. Ça paraît incroyable aujourd'hui, ça, mais ça vaut le coup de se référer aux écrits de ces gens-là. Et c'est devenu un fait saillant au moment où il y a eu la progressivement, mais essentiellement au moment où il y a eu la colonisation, l'esclavage, etc. C'est-à-dire que les groupes qui sont devenus les groupes antagonistes blanc-noir, par exemple, et ensuite toutes les sous-catégories qui existent, tout ça, ça s'est construit de façon concomitante, simultanée, à l'instauration de rapports d'inégalité, d'oppression, etc., entre les groupes. Les groupes ont été construits et définis en même temps que les rapports se mettaient en place. Pour les sexes hommes-femmes, on ne sait pas comment ça s'est construit historiquement, donc on ne peut pas parler de la genèse, mais en tout cas, il me semble que si un jour on vit dans un monde où il n'y a plus de rapports inégalitaires entre groupes, et ben c'est les définitions des individus par ces groupes font disparaître, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et je ne pense pas que ça va aboutir à une uniformisation, mais au contraire à une libération des individus. C'est-à-dire que je pense c'est aujourd'hui qu'on est uniformisé par les identités qui sont liées à ces groupes-là. Par exemple, homme-femme, je pense que c'est des rouleaux compresseurs contre les individualités. On est soumis à, indépendamment donc, des rapports d'oppression et tout ça que je pense qu'il faut combattre, mais un des effets, c'est aussi qu'on est soumis à une pression sociale écrasante pour se conformer au genre et que c'est extrêmement mutilant. Voilà. Et que l'exploration des groupes, c'est à mon avis, ça peut vraiment aller dans le sens d'une explosion de la diversité, de la créativité, etc.
Alors moi je vais changer de sujet, donc si quelqu'un veut intervenir sur ce que vient de dire Yves, qu'il le fasse maintenant, parce que je vais vraiment changer de sujet. Non, ça va ?
Allez, vas-y.
Alors du coup, le premier, c'était par rapport à ce que tu disais, David, sur Facebook, il y avait apparemment une personne qui se disait être végane et qui mangeait quand même des coquillages, qui sont des animaux. Et en fait, moi je pense que c'est assez important qu'on définisse bien en fait, le terme de végane, parce qu'on dit qu'on ne mange pas d'animaux, mais en fait on ne mange pas des êtres sentients. En fait, pour moi, c'est ça la question. Et l'argument infaillible qu'il aurait fallu, la question qu'il aurait fallu poser à cette personne, qui dit non mais, enfin, aux personnes, je veux dire, qui disent non mais t'es pas vegan, tu manges des animaux, tu manges des coquillages, c'est le jour où on découvrira une plante sentiente comme la poule, la vache, le chien ou l'homme, la mangeras-tu? Et là, il va être vraiment face à ses contradictions, il va changer d'avis, quoi. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis vegan, j'ai pas encore eu l'occasion de manger des coquillages, mais. Je pense que si j'en ai envie, j'en mangerai du moment que c'est voilà, que ce sont des coquillages. Voilà.
Je ne peux pas prouver.
Comment ?
Je ne peux pas prouver qu'ils sont pas sentients.
Parce qu'en fait, c'est justement il faut aussi qu'on connaisse la différence entre sentients et sensibles. Ils sont sensibles, mais ils ne sont pas sentients. Ils ne sont pas sentients parce qu'ils n'ont pas un système nerveux globalisé.
C'est pas sentient les moules.
C'est vrai.
Les éclairs.
Ah, donc les moules petites, c'est vegan, du coup.
Non. Pas pour moi.
Moi, dans le jeu, je
suis pas. Ah non, vraiment pas. Enfin, vous avez...
Si vous pouviez demander la parole pour répondre, parce que là, c'est juste un mot cohérent, et bien, c'est pas super facile déjà pour lui de s'exprimer, et ensuite pour les autres, pour le débat, c'est pour suivre.
Non, c'est pas vegan. C'est pas vegan.
Vraiment, c'est important de définir la différence, de dire la différence entre sensibilité et sentience. Bref, les plantes en si, les fruits, les légumes qu'on mange sont eux aussi sensibles. Ils ne sont pas sensibles comme nous, mais ils sont sensibles. Ils sont conscients aussi, ils ne sont pas conscients comme nous, mais ils sont quand même conscients. Bref, on pourra en parler si vous voulez.
Non, non,
Et là, du coup, c'est une question. Oui, bah alors du coup, en fait, la différence entre sensibilité et sentience, sensibilité, c'est que on réagit à, je sais pas, à une chaleur, à une condition météorologique, c'est qu'il y a un certain nombre de sens et qui évolue selon ça. Et sentience, c'est que, en plus d'avoir un système nerveux, on a un système nerveux globalisé, donc un cerveau, comme une unité centrale dans un ordinateur, si vous voulez, où, où on perçoit nos sens et nos sens, quoi. Et les plantes, elles sont sensibles, mais elles ne sont pas sentientes. Et les plantes ont un système nerveux, mais pas un système nerveux globalisé, elles n'ont pas de cerveau. Mais je veux dire, elles sont quand même... je sais plus comment elles s'appellent, ça. Il y a une plante, il suffit de toucher juste une feuille, et toutes les feuilles se replient.
C'est la sensitive, mais ce n'est pas un système nerveux. Hein.
Attends, il n'y a pas de système nerveux.
Système sensitif.
Yanis, tu n'as pas assez de connaissances. Bref, non, là, des choses qui sont approximatives. Heureusement que ce n'est pas filmé.
Du coup, le deuxième point, vraiment, cette question, c'était est-ce que l'éducation, aussi respectueuse qu'elle soit, est éthique?
Bon, merci. Allez, passons.
L'éducation.
Alors moi j'ai beaucoup apprécié donc, ces réflexions quant à toutes les perspectives qui seraient améliorées dans une démarche de communication, de réflexion. Donc j'aimerais revenir sur l'intervention de Claude quant à le progressisme face à la nature, que moi je me représente un peu comme un interventionnisme sur des pays où les choses se passent mal. On prenait pour exemple les souffrances qui ont lieu dans la nature. Il se positionnait en disant est-on aussi intelligent que la nature ? La nature n'a pas d'intelligence. À ça, je dois poser le fait que est-on assez intelligent pour modeler la nature ? Et est-on aussi intelligent que les éléments qui constituent la nature et qui ne sont pas humains ? Oui, donc tout ça c'est pour faire valoir le fait que oui, comme disait Sylvain, finalement, il y a pas mal de choses qu'on développe technologiquement pour faire valoir nos intérêts, qu'ils soient bons ou mauvais, dans le sens d'éthique ou non, et qu'on ne voit pas forcément les conséquences à long terme, que parfois de petites interventions dans le milieu très complexe qu'est l'environnement peuvent avoir des conséquences qui vont complètement à rebours de ce qu'on voudrait. Donc voilà, enfin, c'est peut-être réactionnaire, mais c'est surtout quelque part dans l'idée de la prévention.
Je voudrais juste revenir sur la question, c'est plus une question de deux conférenciers. Sur la question de comment on se définit nous-mêmes au niveau de l'identité, il y a dans vos écrits comme dans vos discours, vous parlez un petit peu de la différence entre vegan et animaliste, communauté vegan et animaliste. Comment doit-on se définir? C'est une question que je me pose. J'étais venu dans l'esprit, vos chers et vos estivales, communauté vegan. Mais en fait, je me rends compte, à vous écouter, que vegan, ça laisse entendre plutôt qu'on se définit comme identité nous-mêmes, mais on n'est pas dans une optique de changement, de progrès et de changer la société. Alors qu'en fait, c'est quand même ça qu'on veut, quand même, avant tout. Et pas simplement dire j'ai trouvé ma communauté, je suis bien, je me sens bien, confortable. Voilà, donc je voulais juste avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à ça.
Là, avec Pierre, on avait fait une intervention d'estival il y a 3 ans, un peu spécifiquement sur ce sujet, puis là, on a sorti une brochure pour les estivales. Moi, je l'ai bâclée et il y a plein de points que j'apporte pas. Mais la partie de Pierre, par contre, elle est plutôt bien carrée. Et vraiment, pas mal, ça s'appelle pour la politisation des questions animales, c'est pas mal sur ce sujet-là. Pierre, il fait une critique du point de vue philosophie morale, critique de, de l'appel à la vertu et des incidences que ça a, ce que ça laisse penser aux gens, que c'est un an de plus de ne pas manger les animaux, etc. En fait, il détaille ça, c'est vraiment très intéressant la façon qu'il le détaille. Enfin, vraiment, je conseille de le lire. Moi, je trouve. Mais c'est vrai que je trouve que. Se définir comme vegan, je trouve ça dommage parce que c'est mettre l'accent sur soi, ce qu'on fait, ce qu'on consomme, ses propres pratiques, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas simplement. C'est vraiment complètement changer des structures sociales, du coup créer un mouvement politique pour changer ces structures-là, et que focaliser finalement sur, sur ce qu'on consomme, je trouve que c'est une perte de message qui est forte. Et vouloir mettre comme stratégie première, prioritaire, primordiale, je ne sais pas comment dire, le fait de discuter dans son entourage pour rendre les autres véganes, je trouve que c'est une erreur, parce que, ou les rendre végétariens, peu importe, pour moi c'est un peu équivalent. Parce que si on va vers quelqu'un pour le convaincre de devenir végane, ben pour lui, le message qu'il va recevoir, dans le meilleur des cas, est qu'il le devienne. Le message qu'il reçoit, c'est que l'autre voulait qu'il en vienne là, à utiliser par exemple des arguments éthiques pour qu'il en arrive là. Et du coup, c'est la fin du truc. C'est-à-dire, il est convaincu par les arguments éthiques, il devient vegan. Point. Mais là encore, moi je pense que ce dont a besoin le mouvement animaliste, c'est pas tant d'un nombre important de véganes que d'un nombre important de militants. Je pense qu'aller vers les gens pour essayer de les convaincre de la justesse des idées antispécistes ou ce genre de choses, moi je le fais sans même parler vraiment de végétarisme ou de véganisme quand je le fais. J'en parle incidemment, mais je n'insiste pas du tout là-dessus. C'est une conséquence que les gens sont incapables de l'attirer eux-mêmes tôt ou tard. Mais du coup, le message c'est plutôt il y a une société injuste, il faut lutter contre cette société injuste. Voilà.
Voilà, j'avais une petite réflexion sur la nature. Je suis un peu surpris qu'on la dénigre et qu'on pense qu'elle n'a pas d'intelligence. Alors que, bon, on vient de la nature quelque part. Bon, je sais que c'est un débat un petit peu houleux dans ce domaine. Mais voilà, le biomimétisme, ça nous a permis de sortir de notre condition. Au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que il y avait eu pas mal d'expériences qui avaient été faites sur des milliers d'années sur la nature, et on pouvait en profiter pour justement s'élever un petit peu de notre condition. Le fait qu'on se soit sorti de notre véganisme naturel pour pouvoir survivre, je ne sais pas si c'est une bonne idée après pour l'adaptation, c'est-à-dire que l'intelligence, pour moi, c'est quelque chose qui est adapté à son milieu. Donc la nature sait très bien faire ça. Donc c'est pour ça qu'on utilise maintenant actuellement pas mal de technologies par la biomimétisme. Donc je ne sais pas si de dire que non, en fait, la nature, il ne faut pas en tenir compte, est une bonne idée. Parce que quand même, Gariowski donne quelques arguments là-dessus. Hier, c'est vrai que j'ai pas relevé. Quelqu'un a dit que c'était pas valable de dire qu'on avait un tube digestif plus grand, enfin, on avait des dents adaptées pour mastiquer, qu'on était herbivore quelque part. Et je trouve ça bizarre de ne pas utiliser cet argument. Je voudrais savoir ce que vous en pensiez, parce que quelque part, l'intelligence de la nature, bon, certes, elle est différente de l'homme, mais quand même, elle a des millions d'années d'expérience derrière elle. Pour s'adapter à son milieu. Alors que nous, on s'adapte à notre milieu en le dégradant et au final en se détruisant, surtout détruisant à long terme.
Donc, il y a d'autres gens qui auraient envie de répondre là-dessus ou...
Juste un dialogue là-dessus.
Oui, moi je suis un peu dans la même interrogation là, que les personnes qui sont intervenues. Sur la nature, sur qu'est-ce que l'intelligence, déjà, il faut le définir. Bon. Et puis, je me dis que là, mettre l'individu en premier, c'est très bien, parce que moi, je suis d'accord pour protéger l'individu, les plus faibles d'abord, et puis les autres aussi. En même temps, à un moment donné, on peut tomber dans l'individualisme, qui est aussi une autre église, si on veut dire, hein, si on peut dire. Ça peut être le culte de la nature, le culte de l'individu. Ça peut aussi atteindre des limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intérêt de l'individu passe aussi par l'intérêt du groupe, enfin d'un collectif, disons. Donc, à quel moment on va pouvoir arbitrer les deux? Voilà, je pose une question.
En tout cas, essayer de revenir sur l'idée de nature. Là. Et sur l'idée de nature, je ne me sens pas la capacité de faire un speech explicatif de mon point de vue, parce que ça risque de durer une heure et qu'on n'a pas le temps. Mais on peut en discuter plus tard. Ça. Et si on prend uniquement au niveau de la nutrition, et ben, au fil des millénaires et des millions d'années d'évolution, on a... l'organisme de nos ancêtres, etc., s'est adapté à certains types d'environnement et de nutrition, mais c'est des types d'environnement et de nutrition qui ont énormément varié au fil des millions d'années. Il semblerait que nos ancêtres soient passés de la savane sèche au glacier du quaternaire européen. Ça fait des grosses différences. Et vraisemblablement aussi, il n'y a jamais eu d'état idyllique où les humains mangeaient à leur faim tout ce dont ils avaient besoin, etc. Que vraisemblablement, notre corps, il est tout particulièrement adapté aux états de carence. C'est une façon paradoxale d'en parler, mais aux états de carence, au manque, à l'insuffisance d'envie, etc. Et qu'il y a une souplesse qui est énorme. Et que du coup, dire qu'on est comme ci ou comme ça, ça peut peut-être avoir donné des vagues indications, mais je crois qu'il y a une plasticité gigantesque et qui d'ailleurs est montrée par la grande diversité des diètes. Il y a des diètes dont on sait qu'elles sont bien préférables pour notre organisme que d'autres, mais il y a peut-être des diètes à venir qui seront encore des fois préférables que celles qu'on connaît, je ne sais pas. Bon, mais ce n'est pas une réponse de fond sur les lunettes.
Personne qui veut parler parce qu'on a tous faim. En
partie. Moi, je voudrais revenir sur la partie révolution progressisme. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui définit l'idée de révolution comme un grand soir. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand une idée progresse rapidement dans la société, donc culturellement, entre autres, elle entraîne des échanges. Elle peut entraîner des bouleversements sociaux, parce que si le végétalisme se développe, ça va entraîner des changements économiques, ça va entraîner toute une réflexion autour de ça, une réorganisation de la société, une reconversion de tout un pan de l'économie, ça va réorganiser l'aménagement du territoire. Moi, c'est ce que j'appelle une révolution. Je ne crois pas qu'il y ait une... Et après, on repasse à des phases plus lentes, mais à un moment donné, quand une idée nouvelle se généralise, il y a un blocage, il y a une forme de rupture, il y a un bouleversement. Je pense que c'est ça qu'on appelle un peu révolution aujourd'hui. Même un géographe anarchiste, Élisa Reclus, qui a écrit un bouquin « Évolution et révolution ». Il ne distingue pas les deux, il dit que c'est des phases qui se succèdent, en fait. Il peut y avoir des phases de régression. Et même la devise anarcho-syndicaliste, c'est réformiste au quotidien, révolutionnaire dans le but. Moi, je ne sais pas, ton idée, David, il me semble que tu parlais de quelque chose d'un des milliers d'années. Enfin, moi, je n'arrive pas à me projeter à des milliers d'années. Quoi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour des changements radicaux qui pourraient arriver le plus vite possible. Bon, ça prendra, vous allez voir.
Est-ce que ceux qui veulent la parole peuvent lever la main pour que je puisse les repérer? Ok. Alors, d'abord.
Tu peux reparler, hein. C'est pas interdit de reparler. Surtout pour les filles.
Je vais aller très vite parce que j'ai déjà pris la parole. En fait, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Lich, sur comment se revendiquer ou animaliste ou vegan. Et moi, je suis très contente d'entendre dire ce que tu as dit, parce que j'ai l'impression quand même, depuis ces conférences, à chaque fois, mes remarques, c'est sur ce qui s'est passé dans la semaine, mais en fait, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé des animaux, et je me demande si dans les années à venir, ce serait pas bien d'avoir des conférences sur ce qu'on pourrait apprendre sur les animaux. Parce que quand on parle de la nature qui a une intelligence, il me semble aussi que de revenir à l'intelligence des animaux, c'est-à-dire leur savoir-être ou la façon dont ils fonctionnent, on connaît très peu finalement nos animaux. En fait, je dis nos parce que c'est, comme je dirais, nos voisins humains. Hein, voilà, donc il me semble que ce serait peut-être une orientation à prendre aussi. On a des débats assez théoriques finalement, très intéressants, mais il me semble que ce serait pas mal de revenir au concret. Et moi j'ai aussi beaucoup apprécié les conférences qui parlaient par exemple de points très précis comme le foie gras, etc. Mais finalement on en est encore à l'alimentation. Et je trouverais encore meilleur qu'on parle des animaux, parce que dans les arguments qu'on peut opposer à ceux qui ne sont pas encore végétariens ou végétaliens, et ben c'est tout simplement la connaissance d'animaux. Et je pense que quand on connaît, on a moins envie de manger voilà, ce qu'on connaît. Et tout ça pour poser une question, alors cette fois-ci à David, qui me semble avoir perdu dans ce que tu disais, mais tu l'as juste abordé d'une façon très, très courte. Tu posais la question de savoir comment on pouvait faire pour qu'il y ait moins de souffrance pour les animaux sauvages. J'avoue que j'ai pas du tout compris à quoi tu faisais référence, mais c'était fugace en fait comme remarque, enfin que tu avais... Ça faisait partie de ton PowerPoint.
Oui, je réponds très vite.
Le premier point, oui, sur la connaissance des animaux, simplement que je suis tout à fait d'accord, que c'est un univers immense à explorer. Et que, bon, l'année dernière, il y a eu une conférence sur les poissons qui était très très intéressante. Bon, c'est un tout petit début, mais que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sur le deuxième point, sur la réduction de la souffrance des animaux sauvages, que c'est clair que en pratique, ce qu'il faut faire, c'est pas clair du tout. J'ai donné juste des pistes, enfin un site web et puis une page Facebook. Concrètement, on a toujours, quand on en parlait aux guillemets spécistes, c'était un peu du style, oui, il faudrait donner de la nourriture artificielle aux lions et puis ils ne chassent plus les gazelles. Bon, enfin, bon, c'est très très réduit comme truc. Moi, à mon avis, c'est pas impossible que la grande majorité des animaux sentients dans le monde, ça soit des insectes et autres petites bêtes, dont on connaît très mal la sentience, qui sont innombrables et qui meurent dans des conditions qui sont peut-être, on n'en sait rien, atroces, que la préoccupation qu'on a pour les canards et les cochons, c'est qu'un début. Les personnes que j'ai citées, comme David Pierce et Brian Tomasi, sont plutôt dans une perspective assez négative. Ils sont contre la souffrance et pas tellement pour la promotion du plaisir. Et qu'il y a tellement de souffrance dans le monde que, grosso modo, leur position, surtout à Brian Tomasi, c'est plutôt que ce serait mieux que rien n'existe. Je ne suis pas si pessimiste, mais enfin, bon, en tout cas, c'est des choses débattues et encore. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, quoi. C'est tout un domaine nouveau.
Merci. Merci.
Oui, j'ai fait son sport.
Je voudrais revenir sur la culture du débat. Je pense que la culture du débat, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est un moyen de faire avancer les idées en optimisant la transmission des informations entre chaque individu et l'ensemble des individus par une espèce de métacerveau, donc la
l'ensemble des individus qui forment une espèce de métacerveau, donc la société humaine dans son ensemble. Donc c'est important d'optimiser cet échange et ce traitement de toutes les informations qui se transmettent entre tous les cerveaux. Mais il y a forcément des limites à la culture du débat parce que, on en a parlé, il y a des problèmes de domination qui font que la transmission n'est pas toujours, parfois unilatérale. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que c'est considéré que tous les individus sont parfaitement raisonnables. Or, si on était parfaitement rationnel, quand on expose son opinion, on devrait proposer chacune de ses idées en échange des idées de l'autre, et en mettant sur chaque idée l'option doute. Chacune des idées que j'expose est susceptible de doute. Et ensuite, c'est le traitement des deux échanges qui va donner quelque chose de nouveau, de nouvelles idées qui sont la résultante. Mais à cause de nos émotions, on va bloquer souvent cet échange parfait et on va commencer par commencer avec la conviction que notre objectif n'est pas de faire évoluer nos idées en même temps que les idées de l'autre, mais de convaincre l'autre. Donc je pense que dans un débat parfait, il faut tenir compte à la fois des idées et des émotions de l'autre.
Oui, bien évidemment, j'ai noté des trucs, j'aurais 20-30 questions à poser, mais je vais en poser qu'une seule. Bon, d'abord, moi je ne suis pas végan. Et donc, ça, c'est la première fois que je le vois. Donc, je vais dire deux choses, pas plus. La question que je me pose, moi, c'est la culture et la nature. Je pense que ces deux termes, c'est une question de définition. Je pense que ces deux termes, pour aller très vite, je pense qu'elles sont complètement contradictoires. Je ne dis pas que l'une est bien et bonne et l'autre est mauvaise, mais comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la culture et la nature. La nature, elle nous est imposée. Je ne pense pas qu'on puisse changer la nature. Et, par contre, on peut changer notre culture et évoluer culturellement, et c'est tout. Mais la nature, elle est ce qu'elle est. Hein. Bon, voilà, ça c'est la première réflexion. Là, je ne sais pas, je vais peut-être me dire ce que vous en pensez là-dessus. L'autre question qui est beaucoup plus simple, alors là, je viendrai à David. Alors, sincèrement, je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Alors, c'est pour ça, c'est vraiment une question. Quand tu parles de capitalisme, pour moi, le capitalisme, c'est un gros, gros, gros défaut qui entraîne énormément de choses, y compris au niveau de l'espèce animale, bien sûr. Et encore une fois, j'ai l'espèce. Et je suis très pessimiste par rapport à tout ça. On sait que sur un plan capitaliste, on est en train d'injecter le besoin de manger l'animal en Chine. Il y a 1,5 milliard de Chinois qui vont se goinfrer de viande. Alors que jusqu'à présent, ils ne mangeaient que très peu de viande. Mais les capitalistes, pour une question de pognon, pour une question de pouvoir, pour une question... Bon, ils sont en train de leur apprendre à manger de la viande. Donc, voilà, c'est une réflexion qui... C'est capitaliste, ça. Alors, je ne dis pas que je suis communiste, parce que ça aussi, dans notre débat, hein, c'est autre chose. Mais à partir du moment où il y a l'argent, le pouvoir, et vouloir se développer d'une façon très matérialiste, je ne suis pas tout... matérialiste, ça ne veut pas dire religieux. Hein. Voilà, le capitalisme pour moi c'est un mal qu'il faudrait combattre. Par quoi, comment, ça, notre débat.
D'abord sur l'histoire de nature-culture, je trouve la manière dont tu le poses, si je me trompe, c'est la manière assez classique de l'humanisme. Pardon ?
Je suis humaniste.
Oui, enfin, je pense que c'est...
Il
faudrait
définir les mots.
Pardon ?
Il faudrait définir les mots.
Oui, voilà. Bon, je je pense que c'est faux. Enfin, je veux dire que c'est faire une symétrie entre deux notions qui sont... Il n'y a pas une symétrie. Dire la nature, c'est comme ça, et on ne la change pas, on change la culture. Je ne veux pas dire, mais... par exemple, pour un exemple classique, la plupart des Européens ont un gène qui fait qu'ils sont capables de digérer le lactose après l'enfance. Et c'est quelque chose qui vient du fait qu'il y a une culture d'élevage dans les populations, dans les ancêtres des populations européennes. La culture change la nature, la nature change la culture. Je trouve que c'était... Enfin, je ne vais pas développer, mais ça prendrait longtemps et ce n'est pas le lieu. Mais moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Et surtout, j'ai l'impression que c'est l'idée que la nature, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas changer. Je dis qu'on ne change pas la nature.
L'humain, enfin le vivant ne change pas la nature. On fait partie de la nature.
Ne peut pas.
On fait partie de la nature, mais je vois pas comment l'espèce vivante va changer la nature.
Le réchauffement climatique.
Oui, c'est micro. Oui, mais.
Je comprends pas ce que tu appelles changer la nature, alors. Hein? Je comprends pas ce que tu appelles changer la nature.
Mais je dis, on ne peut pas changer la nature. La nature est ce qu'elle est.
Non.
Je comprends pas là. C'est une question, moi. Je n'ai pas compris ça.
Enfin, on peut se raser les jambes même si on a des gènes de pilosité. Enfin,
ça, c'est culturel.
Non, mais je comprends pas très bien, mais je pense que ça prendrait trop longtemps. Et la deuxième question, excuse-moi.
Là, c'est le capitalisme.
Oui, le capitalisme. Ouais.
Tu faisais pas l'apologie, mais disons que tu vois que c'était pas si mal que ça. Et là, je comprends pas.
Je ne dirais pas que je refais l'apologie. Je dirais que entre le capitalisme et le Moyen-Âge, personnellement, j'aurais tendance à préférer le capitalisme. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut poser le problème, mais en tout cas, ce que je voulais dénoncer, c'était la tentation de retour au Moyen-Âge par rejet du capitalisme. C'est tout.
Moi, je ne suis pas du tout satisfaite de ta réponse, David, mais en fait, je pense que c'est parce que moi, je n'ai pas dit ce que je voulais dire, je l'ai censuré.
Oui. En fait, pas à ta question précédente ou par rapport
Non, par rapport à l'histoire du débat. En fait, je me suis rendu compte que j'avais dû me censurer. Je maintiens l'idée que je vais y réfléchir, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à réfléchir en même temps que j'écoute tout ça. Mais en fait, moi, je réagissais à la critique de la phrase « Le racisme n'est pas une opinion, mais c'est un délit ». Parce que, en fait, moi, pour moi, dire que le racisme c'est un délit, ça veut dire que c'est pas une opinion comme une autre. On peut dire que c'est une opinion, mais c'est... dire que c'est pas une opinion, enfin, dire que c'est une opinion, c'est un peu dire que c'est une opinion comme une autre. Moi, je dis que c'est pas une opinion comme une autre, mais que c'est une violence. C'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un délit. Les délits, ça n'existe pas, il y en a aucun qui existe, c'est nous qui décidons ce qui est un délit ou pas. Moi, je pense que le viol est un délit. J'espère qu'un jour, manger de la viande, ce sera un délit. Et du coup, pour moi, le racisme, c'est d'abord la justification d'une violence, et ça devient une violence après, parce que ça, c'est une violence psychologique. Donc, je pense que ça fausse la possibilité de débat de dire que le racisme, c'est une opinion comme l'antiracisme. Parce que ça nie, j'ai essayé de dire tout à l'heure, ça nie le rapport de force qui fait que, et puis en plus, bon, il peut y avoir une menace. Donc je ne sais pas comment on peut débattre sur la menace. Moi, ce que j'aimerais, c'est arrêter le racisme au moment où il agit violemment, et comment, en débattant, on peut arrêter le racisme. Enfin, dans le débat, j'imagine qu'il peut nous projeter dans un avenir où on aura vaincu la pensée raciste par des arguments, je ne sais pas. Mais en attendant, le débat ne suffit pas. Quoi.
Je vais répondre.
sur le rapport nature-culture, moi je vois ça comme le fait que la conception de la nature, ça inclut quelque part dans la culture. C'est forcément, parce que la culture, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et donc il ne peut pas y avoir de différence peut-être entre la nature et la culture. Parce que l'un est inclus dans l'autre. Juste,
moi je pense que la nature joue sur la culture, mais la culture ne joue pas sur la nature.
Ça sert à rien de lever la main, quoi, du coup.
Finalement, il y a une sorte de demi-question. Oui, ça serait bien qu'il réponde de temps en temps.
Juste, je peux passer le micro après, mais je vais répondre aussi à ça.
Il n'a pas laissé parole.
Merci. Moi, je sens qu'il y a un problème à travers le fait de poser des règles, des lois dogmatiques arbitraires, mais je ne me considère pas contre les lois. Je pense qu'il faut savoir faire preuve d'intelligence si on fixe que les choses sont désignées comme des délits. Dans ce cas-là, il faut faire preuve d'intelligence dans l'attribution d'une punition. Que de toute façon, dire qu'il n'y a pas de règle, c'est une règle en soi.
Ben bon, tout à l'heure, si je n'ai pas répondu à ta première question, c'est parce que c'est pas par mépris pour la question, c'est parce que j'ai pas, j'apprécie qu'on soulève le problème des inégalités dans les débats et que moi, je n'ai pas une solution toute faite à proposer plus que quelqu'un d'autre. Sur la question de l'idée que le racisme, c'est un délit, donc pas une opinion. On peut en faire un délit ou pas, mais de toute façon, quand on en fasse un délit ou pas, ça reste une opinion. Enfin, ça reste une idée, de la même façon que pour moi, le spécisme est une opinion. C'est une opinion contre laquelle je me bats, mais c'est une opinion. On ne va pas se mettre à dire que toutes les opinions fausses ne sont pas des opinions, mais sont des délits, parce que sinon, après, il faut se mettre à débattre sur quelles sont ces opinions fausses. Donc, ça peut mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas si j'ai autre chose à répondre à ça. Ben oui, le racisme, c'est une violence. Enfin, c'est pas une violence en soi. Je veux dire, moi, je suis informaticien, je me fiche qu'il y ait quelqu'un qui pense que les informaticiens sont la vie de la Terre, quoi. Je veux dire que ce qui est une violence, c'est les rapports qui ont existé depuis des siècles et qui existent aujourd'hui. Frapper, c'est pas une opinion, frapper, c'est un acte. Et moi, je parle de l'opinion elle-même, et qui d'ailleurs est multiforme.
Oui, l'opinion peut amener à l'acte. Alors que l'opinion, c'est un informaticien, ne sert à rien, ne va pas amener à l'acte, c'est amener à le frapper. Donc là, il y a quand même une différence.
Mais des opinions.
L'opinion peut amener à un acte.
On ne va pas non plus interdire toutes les opinions qui peuvent amener à des actes condamnables, parce qu'il y a la quantité. Je veux dire, quelqu'un qui dit. Il faudrait supprimer les limitations de vitesse sur les autoroutes, ça peut amener des milliers de morts. On ne va pas dire, le fait de dire c'est une opinion qui tue, ben, ça peut se dire pour énormément de choses.
Oui, mais dire c'est faire aussi. L'acte même de dire c'est une
Il me semble que les incompréhensions qui peuvent se dérouler là, ici, elles sont beaucoup liées à des confusions sémantiques entre des mots qui peuvent faire croire que égalité égale similitude égale ressemblance, et évidemment, on peut confondre discrimination, observation de différence, injustice ou inégalité. Et ça, je suis désolée, la discrimination, c'est le comportement qui consiste à traiter quelqu'un différemment, de façon injuste, uniquement par rapport à ses différences. Et ce n'est pas le déni de la différence.
Parce que si on commence à nier la différence, on est dans un monde de fou. Moi, si je différencie plus la droite, la gauche et le haut du bas, je risque de me prendre le mur. En plus, ce qu'on constate chez un enfant, un bébé, c'est sûr qu'il ne différencie pas. Il sort. Mais à mesure qu'il grandit, quand on observe la progression de la pensée chez l'enfant, je suis désolée, penser, c'est créer des concepts. Et créer des concepts, c'est créer forcément des différences. Et c'est... Mais la différence n'est pas discriminatoire. Hein. Qu'un enfant différencie un pissenlit et une marguerite, ce n'est pas discriminatoire. Sauf s'il en écrase une et qu'il respecte l'autre. Donc je voudrais vraiment... Moi parfois, je me sens perdue quand ici, le simple mot de nommer une différence devient un acte coupable. Les différences, elles existent. C'est ce qu'on en fait qui devient effectivement problématique. Dans l'éducation nationale, je vois qu'il y a toute une campagne justement contre les postures discriminatoires. La lutte contre les discriminations fait partie du programme scolaire. Tous les enseignants maintenant doivent y être formés. Et quand on ne travaille pas sur la discrimination, quand un enfant dans une classe traite l'autre de sale noire, effectivement, il va être convoqué peut-être chez le CPE, il aura déjà des explications, il aura peut-être même une sanction, peut-être des heures de colle, etc. Ça, c'est la posture suite au délit. Voilà, donc c'est un délit que d'insulter quelqu'un pour son appartenance. Ok. Simplement, moi je fais la comparaison à d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, l'enfant, dans le meilleur des cas, il comprend la leçon. C'est bien, la punition visait à le faire comprendre. Certains ne comprennent pas la leçon. Simplement, ils disent qu'il y a des trucs à pas dire, ça n'empêche pas de les penser. Voilà, tout simplement, il apprend à cacher et à savoir ce qu'il faut dire ou pas dire selon le bon endroit. Ça, c'est une belle culture de l'hypocrisie. Mais inversement, je vois des classes dans lesquelles on apprend la culture du débat, et là je rejoins David, dans lequel un enfant peut lancer dans un débat une parole de ce type-là. Par exemple, moi, j'aime pas les noirs. Voilà. Dans le système classique, on dit, pas bien, moi ton carré comme cette correspondance. La culture du débat, on dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et là, moi j'ai vu dans des classes, même des enfants tout petits, c'était drôlement intéressant. Parce que quand on laissait l'enfant lui dire, t'as dit une vilaine chose, tais-toi, et qu'on le laisse dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mais ça peut être pareil pour le handicap. Moi j'ai vu un enfant un jour dire, moi les handicapés, je trouve que ça sert à rien. Pourquoi on les détruit pas? Voilà, un gamin de 7 ans. L'instinct, c'est contenu, parce que quand on anime les débats, il faut avoir un certain travail sur soi, pour ne pas réagir comme si on était épidermiquement touché personnellement. Elle dit, c'est pour... et dis-toi un jour que tu devais handicapé par un accident, qu'est-ce que tu penserais? Il a réfléchi un peu, dit, ah ouais, c'est vrai que ça fait un peu changer d'avis. Une petite fille, et une petite fille lui a dit, bah toi, mon papa, il est handicapé. Alors elle a commencé à dire tout ce qu'elle pouvait faire avec lui. Tous les bisous, les câlins, la tendresse, se parler, il ne peut pas marcher, papa. Et à la fin, elle a dit cette phrase magnifique, que parfois peut-être peu d'adultes diraient, et de toute façon, je l'aime comme il est, et il m'aime comme je suis. Et là, l'enfant qui au départ était contre celui qui était handicapé, il ne savait rien. Mais il avait drôlement modifié ses représentations. C'est en écoutant des opinions qui seraient entre guillemets délictueuses, finalement, et en les travaillant dans les présupposés, dans les argumentaires, dans les conditionnements que les enfants reçoivent de droite et de gauche, c'est là qu'on fait la vraie culture. Et on lutte plus contre la discrimination en laissant des opinions négatives se travailler encore dans leurs prérequis qui sont souvent faussés, justement, qu'on les fait évoluer beaucoup plus qu'en les censurant et en disant que c'est politiquement incorrect. Parce que ceux qui disent que c'est politiquement incorrect, ils finissent par faire ce qui condamne. Et il y a des censures. Et moi, il y a beaucoup de choses ici que je censure. Voilà, je ne censure pas les mêmes choses forcément les uns que les autres, mais je me censure, là, je me lâche un peu. Bon, là, pour les pigeonnaises. Oui, quand on disait la culture, je crois que c'est un faux débat. Parce qu'effectivement, non, attendez. Parce que je pense que la culture, les modes de vie, finissent par influencer le génome, mais à des échelles de temps qui nous échappent. Si bien qu'à l'échelle relative, on finit par dire que la nature est fixe. Mais c'est vrai, vous avez l'épigenèse, effectivement, ce fait que des modes de vie peuvent lentement modifier certains aspects du génome. Mais ça se fait à des échelles de temps énormes. On sait qu'il y a des papillons qui vont prendre une couleur plus adaptée à leur environnement parce qu'ils seront moins adéquats pour les autres. Et je crois que chez l'être humain, c'est pareil. D'où d'ailleurs la diversité des différences entre les hommes, c'est qu'ils se sont adaptés à des milieux et leur génome s'est adapté aux conditions climatiques et autres. Mais ça ne veut pas dire que notre nature profonde reste la même. Mais c'est le périphérique, c'est la couleur de la peau, c'est des choses comme ça qui vont changer.
On n'a pas les moyens de changer la nature profonde.
J'ai pas dit que la nature ne changeait pas. J'ai dit que nous, c'est l'univers, on n'a pas le moyen de changer de nature. Elle se change toute seule. Elle évolue toute seule.
Là, on est d'accord.
Voilà. Mais la culture peut être changée éventuellement.
Donc,
notre culture, elle peut être changée par notre nature.
Alors j'ai dit d'abord ma taille.
C'est quoi la limite du timing?
Il n'y en a pas.
Okay. Une intervention cet après-midi, il est 1h30, moi je suis d'accord, on peut y aller. Hein. Je ne sais pas si c'est hyper productif.
On laisse parler
les trois dernières
personnes.
Pour répondre à Dominique, je pense qu'abolir certaines catégorisations, c'est pas forcément vouloir nier complètement les différences, mais plutôt s'attaquer à leur science. C'était, il me semble, l'exemple dans l'un des deux exposés, je ne sais plus lequel, de Marco Polo, qui remarque d'abord plein de choses sans remarquer la couleur de peau. Voilà. On n'a pas un pronom différencié en français pour distinguer les gens qui ont les yeux bleus des gens qui ont les yeux marrons. Par contre, on distingue les hommes et les femmes, donc ça rend cette catégorisation saillante, mais ça ne veut pas dire qu'on nie pour autant qu'il y a des gens qui ont des yeux de couleur différente. Et sinon, j'avais une question pour David, dans ton exposé. Tu critiquais à un moment donné le fait que certains prennent les welfaristes pour bouc émissaire. Alors, est-ce que ça veut dire que tu contestes de manière générale le fait même de distinguer des welfaristes des abolitionnistes? Est-ce que ça veut dire que tu penses que c'est... que tu es critique à l'égard de l'idée que le welfarisme s'oppose à d'autres démarches et qui serait contre-productif?
Welfarisme, c'est un terme, littéralement, ça veut dire être pour le bien-être. Et bien-être, ça veut dire être bien.
Qui peut être...
Encore
la censure. Non, mais on va arrêter. Non, mais juste... Je peux avoir la fin de ta réponse?
Bon, moi je me définis comme welfariste, je suis pour l'abolition de la viande, et je pense qu'il y a, la théorie, enfin je pense que ça vient de Francione, qui a déclaré que si le mouvement animaliste n'avance pas, c'est parce qu'il a été dévié par les welfaristes, enfin il a un peu inventé ces welfaristes, qui existent traditionnellement comme étant, mettons, ceux qui sont juste pour le bien-être, mais ne veulent pas qu'on arrête de manger les animaux, et que ça veut dire que, selon Francione, il faut que tous les gens qui sont pour le bien-être des animaux seraient forcément contre le fait qu'on abolisse la viande. Enfin, je veux dire, il a fait une sorte de catégorisation complètement artificielle des choses, avec les bons étant les abolitionnistes, en plus abolitionnistes qui sont définis à sa façon. En fait, son abolition, c'est l'abolition de tout rapport entre humains et animaux. Ça revient grosso modo à ça, à quelques nuances près, et il considère qu'il n'y a que les abolitionnistes qui sont bien, les abolitionnistes définis comme ça. C'est-à-dire, je pense qu'il a redéfini le vocabulaire, il s'est accaparé un mot, et que il a fait de ceux d'en face qui ont mis sous le nom de néo-welfaristes, ça veut dire des loups dans un costume d'agneau, qui seraient des partisans, des alliés de l'industrie de la viande, qui ne veulent surtout pas qu'on abolisse la viande. Je veux dire, on voit L214, à quel point ils ne veulent pas abolir la viande. Enfin, je veux dire, ça me paraît crétin de dire que... Alors qu'ils travaillent aussi pour le bien-être et pour dénoncer les conditions particulièrement horribles de transport, etc. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Ou alors c'est une opposition beaucoup plus nuancée que ce que font les francionites qui en ont fait effectivement leur bouc émissaire.
juste parler de quelques points. Il y a la question de le racisme est une opinion. Je ne trouve pas que ce soit une opinion. Le racisme, c'est quelque chose qui est culturel et structurel. Et